Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ramadan & Co, il faut profiter de cette émission parce qu'elle dure 30 jours, c'est ça, voilà. Et on a le plaisir d'être avec vous pendant ces 30 jours. Ça commence à 19h et vous allez voir, la compagnie, il y en aura pendant tout le mois. On va essayer de vous présenter des gens, des belles voix, des érudits. Et en tout cas, ce sont des bons moments comme on aime à les passer tous les ans pendant le mois du Ramadan. Alors, j'ai failli pas avoir mon imam ce soir, j'étais dans tous mes états, mais il est là.
Salam alaikum.
Ce matin, vous étiez un petit peu...
Ouais, un peu dans le coltard.
Dans les choux, ce matin. Choux.
Mais ça va mieux, alhamdoulilah.
Ah, je suis rassuré, parce que ce matin, vous m'avez fait peur. Allô ? Oui, bonjour, je voudrais parler à l'imam Abdelali. Ah bon ? Ça va pas.
J'ai mal au ventre.
Je me suis arrêté.
Il donne tous les détails.
Non. Manuel Mariani m'a mis trop de harissa.
Non, c'est moi qui me suis servi Mariani pour
hier.
C'est moi qui. Mais elle est bonne, sa harissa.
Non, un truc de malade. Il a pris la grande cuillère. Il est allé.
Ah, ça s'appelle avoir le l'objet, c'est ça.
Ouais, un peu d'ulcère.
Oh là là.
Il a dit même pas peur.
Même pas peur, j'ai dit. Allez hop, on y va.
Cracher du feu, l'imam.
Non, ça va. Hier. Non, ça allait. J'ai même pas pris de l'eau avec la harissa.
Oh mon Dieu.
Je suis pas top avec la harissa, mais voilà. Bon, là, je vais faire attention.
Oh, la den ce soir va être.
Ce matin, ce soir, il va monter de 2 octaves.
Oh mon Dieu.
Ah ouais, là, c'est sûr, 2 octaves.
C'est ça, 2 octaves. Oh mon Dieu, ce matin, c'était pas ça. Hein.
Machallah. Hey. Ce matin, c'était plutôt Barry White.
Ah, c'était Barry White. Ouais. Bon, à 21h51, hein, si vous habitez Paris, la den en direct avec l'imam Abdelali Mamoun. Mais c'est Maître Serhan qui ouvre cette émission. Bonjour, mon maître.
Bonsoir mon cher Philippe, allez Ramadan jour 7, bonsoir mes amis, moi être heureux de vous retrouver, ce d'autant plus que je n'étais pas présent parmi vous ce week-end. Eh oui, vous pouvez vous en prendre dès à présent à monsieur Philippe Robichon, qui alors que c'est Ramadan, période au cours de laquelle on doit faire preuve de la plus grande générosité, a refusé de verser le cachet largement justifié et demandé par Maître Serhan pour être présent le week-end. Fissabilam, a-t-il dit, Fissabilam, Maître Serhan, oui, Fissabilam, mais quand même je peux même pas en échange demander Hal Kahwa, because Ramadan. Vieux pingre que vous êtes, par votre faute. J'en suis certain, j'ai dû manquer à nos auditeurs ce week-end.
Ah ouais.
Enfin, peut-être que j'ai manqué à nos auditeurs, mais manifestement, ni à vous, ni à l'imam. J'ai écouté quand même ce samedi, il a pas un petit mot pour dire « Ouais, Maître Serhan n'est pas parmi nous, il nous manque ». Je me suis dit, mahlish, je vais écouter dimanche. Pareil, Walou, pas un mot à mon intention.
Non, moi, j'ai posé la question à ton sujet, mais hors antenne.
Hors antenne.
On n'était pas à l'antenne quand j'ai posé la question.
Bon, comme c'est l'imam, je vais le croire sur parole. Je peux pas remettre en cause sa parole. Bon, en tout cas, je me suis dit, zut, on n'est vraiment pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je suis là aujourd'hui, mais j'ai failli ne pas être présent, mon cher Philippe. Car ma vie fut en danger. Non. Samedi, j'ai accepté un truc fou. J'ai accepté d'accompagner Madame Serhan faire des courses. Et pas n'importe où. Comme beaucoup de musulmanes, elle me dit, on va aller dans ce magasin, ils vendent que des produits halal. Je vais même pas citer le nom du magasin, elle le mérite pas. Bon, moi, bon mari, a-t-on le choix? En qualité de mari, on sait très bien que c'est toujours madame qui commande des bolos, les gars. On est des bolos. Donc, contraint et forcé, je dis, ok, Madame Serhan, on y va. On se rend donc dans ce magasin et juste pour accéder au parking, faut compter à peu près 1 heure hein, d'attente. Je sors de voiture et là, je vois. Alors c'est pas une queue puisque quand c'est la queue, c'est organisé, c'est une foule. Ça rappelle un peu les ambiances du temps. Pas si longtemps que ça, d'ailleurs, au consulat d'Algérie, c'est-à-dire il y a du monde partout. Alors dans un premier temps, je pose la question à des personnes, je dis, excusez-moi, mais vous faites la queue là pour ce magasin? Et quand tu poses la question, les gens te regardent presque de travers. Oui, bien sûr, je fais la queue pour le magasin. Ok, t'as juste envie de dire, mais ma sœur, c'est Ramadan, mais si t'es énervé ou si t'es aigri, fais-le pas, hein. Donc après avoir patienté 1000 heures, on finit par rentrer dans ce foutu magasin. Alors je veux bien que ce soit Ramadan, mais quand même, les amis, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Vous me faites honte, hein, des fois, hein, un peu de tarbiya quand même. Les gens, ils courent partout, ils prennent tout, tout ce qu'on peut prendre. Je me suis même demandé si c'était pas gratuit dans le magasin, et je vous confirme que non. Des rayons, des valisés, des trucs qui tombent par terre, zéro respect. Mais qu'est-ce qui m'a foutu des musulmans pareils? D'ailleurs, c'est simple, il y avait tellement de monde que j'en ai même perdu mon épouse. Vous savez, hein, les frères, il faut quand même faire attention, on n'est pas des sauvages, à tel point que j'entendais des personnes se crier dessus, presque un début de bagarre pour de la nourriture, des chariots remplis, et quand je te dis remplis, c'est rempli, j'ai dû recevoir au moins 4 fois des coups de chariot dans le talon, et personne pour s'excuser, tout le monde s'en fout. Oula oula, on est loin de l'esprit du Ramadan, je pensais qu'il fallait avoir un esprit apaisé durant cette période. Alors je suis déjà pas un amoureux des courses, mais faire des courses dans ces conditions pendant le Ramadan, c'est pas possible. Je dis donc à Madame Serran, de manière autoritaire et ferme, « Eh, c'est bon, on y va !» Elle me répond, « Ouais, t'as raison, de toute manière, j'avais besoin de rien de spécial. Oh, comme c'est Ramadan et que j'aime ma femme, et surtout que je suis un bolos, j'ai même pas relevé cette remarque. » Mais plus jamais je ferai, en tout cas personnellement, des courses pendant ce Ramadan. Allez, j'espère pour vous que vous avez fait vos courses, Sahaf Tolkom, et à demain, Inch'Allah.
Ouais, puis il faut dire que le samedi après-midi, c'est peut-être pas le jour.
Non, mais c'est juste impossible, non, c'est n'importe quoi. Mais ça ne peut être qu'une idée de femme. Mais si, quel est l'homme qui dit on va faire des courses un samedi? Voilà, et nous on suit.
Non, mais vous auriez pu dire tiens, chérie.
Ça marche pas comme ça, hein.
Non, c'est vrai que
ça marche. Non, ça marche pas comme ça.
Maître Serran, on vous retrouve demain.
Grand plaisir.
Et nos amitiés à Madame Serran.
J'y manquerai pas.
Voilà, qui nous écoute.
Qui nous écoute probablement. Ouais.
Alors vous pourrez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Maître Serran, j'ai l'impression vraiment que c'est toujours toi le plus lésé. Tu es l'homme de loi, l'homme de droit, mais c'est celui qui en a le moins finalement.
Ouais, mais
de
c'est
droit.
Exactement ça.
C'est vraiment catastrophique.
C'est exactement ça.
Par exemple, là, les dates, est-ce que tu vas pouvoir y goûter? Non.
Est-ce que t'as une
T'as raison, c'est
non,
ça le truc.
T'as droit à rien.
C'est pas,
allez où l'injustice? Elle est partout, l'injustice me concernant. Alors, quand même.
Machallah, Alex.
On va garder des dates à Maître Serran.
On va lui en laisser.
Ouais,
ok. Bon, en tout cas, cette histoire de date là, parce que là, je suis tombé sur un plat, mais extraordinaire. Maître datier, là, je vois. Date d'exception. Ce sont des dates au chocolat qui sont dénoyautées. C'est magnifique. Et ça m'a fait penser à une petite histoire, Philippe. Est-ce que tu connais celui qui a dit la fameuse phrase « Tu as fatigué les califes après toi, ô Abou Bakr. » Tu as fatigué les califes après toi, ô Abou Bakr.
Alors, moi, là, dans ces cas-là, je me tourne vers Maître
Serran.
Qui est notre imam de secours.
Ah oui, normalement. Ça s'appelle les ambiances à l'école, tu sais, où le prof, il regarde comme ça, il dit, toi, là-bas.
Mais là, comme on est deux à tourner la tête vers Maître Serran,
Kim, t'as une idée? Je tourne la tête vers Kim, hein.
Non. D'accord. Très sincèrement, non.
Alors, l'histoire, elle commence, à l'époque du calife de Abou Bakr.
Donc ça,
Abou Bakr,
oui.
Il fait son travail, il est chef d'État, il est le calife des musulmans. Après la mort du prophète Mohammed, il va régner pas longtemps, il va régner un peu moins de 2 ans, donc c'est pas énorme. Le califat de Sayyidina Abou Bakr Siddiq. Mais néanmoins, il va faire énormément de choses pendant son califat. Mais ce qui nous intéresse, c'est une tradition qu'il avait le matin après le Fajr. Il sortait de chez lui et il discrètement passait à travers dans les ruelles de la ville. Et il allait au bout de la ville, hein, il rentrait dans une maison, et il attendait, au bout d'un certain temps, il en sortait. Alors, qui nous raconte ça? C'est Omar al-Khattab, qui dit que moi, là, je me suis étonné de pas voir un jour Abou Bakr chez lui, et je l'ai vu sortir de chez lui, et je l'ai suivi. Parce que, où il va où, comme ça? Je l'ai suivi, voilà, pareil, je le vois rentrer dans la même maison, et au bout de quelques, on va dire, un certain temps, quoi, voilà, à peu près une heure, à peu près, et je le vois ressortir. Alors, tous les jours, je vais voir, il voulait voir ce qui se passe. Et tous les matins, après le Fajr, il va dans la maison de cette dame, dans cette maison. Et il rentre, au bout d'un certain temps, il ressort. Jusqu'à sa mort, jusqu'à que le calife Abou Bakr décède. Et donc, Omar al-Khattab prend les rênes. Il devient le calife à la place du calife. Il devient Amir al-Mu'minin. Et il s'interroge, il veut, c'est quoi cette maison où aller tous les matins Abou Bakr Siddiq, parce qu'il l'a considéré comme une charge gouvernementale que d'aller voir dans cette maison. Il était dans la curiosité de savoir ce que c'était. Il rentre et il voit une dame et il lui dit, mais qu'est-ce qui c'est cet homme qui rentre chez vous? Est-ce que vous le connaissez ? Elle dit non, je ne le connais pas. Ce monsieur, il rentre, il dit juste salam alaikum, je connais à peine, il me dit pas un mot, mais par contre, il fait le ménage, il me prépare à manger, il prend soin de moi, il s'assure que dans la maison, il manque de rien et tout. Et elle était aveugle. Hein. C'était une femme aveugle. Elle ne voyait pas, donc c'était une non-voyante. Donc, par contre, je l'entends faire le ménage, ranger tout, et ensuite, il prend ses affaires et il s'en va. Hein, ce matériel de nettoyage, etc., il repart. Et donc, Sayyidina Omar a dit, bah, écoute, moi aussi, je vais faire la même chose. Mais il ne lui a pas dit à elle. Il a commencé à faire donc la même chose le lendemain, puisque Abou Bakr venait de mourir. Et là, quand la dame prend les dattes, parce qu'il lui ramène à manger, donc des dattes aussi, elle mange les dattes et elle dit, est-ce que mon ami est mort ? Elle a dit, mais comment vous pouvez savoir qu'il est mort ? Et dit, parce que lui... Quand il m'a ramené des dattes, parce que Omar lui aussi a fait la même chose, il ramenait les dattes, il ramenait à manger pareil. Parce que lui, Omar al-Khattab, quand il m'a amené à manger, eh bien, il enlevait les noyaux. Il s'assurait qu'il n'y avait pas de noyaux pour éviter que je m'étouffe ou qu'il m'arrive quelque chose par les noyaux. Lui, Abou Bakr Siddiq, il enlevait les noyaux avant de me les donner, parce qu'il savait que j'étais une personne âgée et que ça pouvait être gênant pour moi d'avoir à enlever les noyaux dans des dattes. Et là, lui qui voulait faire pareil ou mieux que Abou Bakr Siddiq dira, tu as fatigué les califes après toi ou Abou Bakr. Laqad at'abta al-khulafa' min ba'dika ya Abou Bakr. C'est un chef d'État. Imagine là, par exemple Macron là ou Hollande, le matin après le Fajr, il va chez quelqu'un, chez une femme âgée, il lui fait le ménage et tout sans rien dire, sans attendre rien en contrepartie et ni récompense ni rien et puis il fait tout ce qu'il faut et puis personne n'est au courant. Tu peux imaginer un truc comme ça? Voilà qui étaient ces hommes qui ont été éduqués par le prophète bien-aimé Mohammed alayhi salat wa salam. Donc on a une belle leçon à prendre et un modèle à suivre à travers ce personnage qui était Abou Bakr Siddiq. Et Omar qui a essayé aussi de faire la même chose. Il s'est dit, bah moi aussi je vais faire le boulot qu'il a fait. Et bien malgré tout, il n'avait pas fait exactement comme Abou Bakr. Et donc c'est comme ça qu'elle a su que il lui est arrivé quelque chose. Elle a dit, est-ce qu'il est mort mon ami? Et là, il lui a dit, oui, comment tu sais? Il a dit, normalement, les dattes, il n'y a pas de noyaux à l'intérieur. Tu dois enlever les noyaux. Moi, je les mange sans noyaux. Et là, il dit, ya laqad at'abta al-khulafa' min ba'dika ya Abou Bakr. Tu as fatigué les califes après toi, ô Abou Bakr.
Voilà. Bien. Dans un instant, vous poserez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct. Je vous rappelle le numéro du standard que vous composez, 01 53 48 3000.
Ah, ce qui paraît en plus, les deux maîtres dattier, là, qui sont chocolatés, il n'y a pas de noyaux à l'intérieur.
Ah ben non, elles sont démonotées, elles sont fourrées.
Elles sont fourrées. Donc on peut les manger comme ça direct.
Mais attendez.
Ils ont suivi la sunna de Abou Bakr.
Il y a tellement de calories, vous en mangez une.
Ce qui compte, c'est que tu vérifies bien que.
Vous mangez pas le plateau.
Maître Serran, il est sa part.
Voilà. S'il vous plaît. Ce qui est exceptionnel, c'est magnifique, c'est que Philippe, on dirait que c'est le papounet, tu vois, à l'imam.
C'est pas grave.
Il fait attention à lui, les calories, le sucre.
C'est mon grand frère.
On a un ramadan à tenir.
La barre blanche de
Monsieur Fouras, là.
Père Fouras.
Bon, je vous rappelle le numéro de téléphone pour appeler l'imam et lui poser des questions, parce qu'il est là pour ça. Hein. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et vous notez que ce soir à 19h40, c'est Farid Darouf qui est imam à Strasbourg qui lira le Coran. Imam Abdelali, 01 53 oui. 48 3000. Vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali, alors qui est là? Allô? Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, quel est votre prénom?
Alima.
Alima, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM, Alima.
Ben, oui, enchanté, bonjour à tout le monde.
Salam alaikum.
Salam, et puis bon ramadan, enfin bon... Mois du Ramadan, voilà.
Merci, vous aussi, Alima.
J'ai deux petites questions, mais c'est très petit.
Ouais, parce que c'est une question à l'imam, parce qu'il y a beaucoup de monde, alors on vous écoute, donc, Alima.
Alors, c'était juste pour ça. Pendant le mois du Ramadan, est-ce qu'on peut écouter de la musique, enfin, un style jazz, funk, enfin, des petits trucs qu'on aime bien?
Du funk?
Ouais, funk.
La question est d'abord beaucoup plus générique. Est-ce qu'en islam, il est permis d'écouter de la musique?
Voilà, pendant le mois du Ramadan.
Alors non, moi je vais d'abord répondre à la question de manière plus générique. Est-ce que l'islam permet d'écouter de la musique? C'est un sujet, c'est pas vous, je vais répondre à la question si vous le permettez.
Oui,
donc,
pardon.
Ce point-là est extrêmement polémique, est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et voilà, fait couler beaucoup de salive entre ceux qui sont plutôt contre, qui considèrent que c'est pas halal d'écouter de la musique, en se basant sur des hadiths qui sont faibles. Qui ont un sens évident, clair, qui interdit clairement la musique, mais dont l'authenticité est faible. Où vous avez un verset du Coran qui, lui, est authentique, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu dans le Coran, et on sait que le Coran est authentique, sauf qu'il ne parle pas explicitement de la musique, mais il parle de l'ahwal hadith, la discussion. L'ahwal hadith, c'est-à-dire la parole, l'amusement. À l'amusement. Est-ce qu'il s'agit de musique? Il y a Ibn Abbas qui a dit Inna hal ghina. Il a dit que c'était pas la musique, il a dit que c'est la chanson. Il a dit que c'était la chanson. Mais même ce verset-là n'interdit pas. Il dit simplement que ces gens-là qui chantent et qui font de la musique, ils le font avec l'intention de détourner les gens de la foi. D'accord. Donc ça, il y a tout un débat. Après, je ne veux pas rentrer trop dans les détails sur cette question. En tout cas, la question de la musique, c'est un sujet. Non, vous avez raison. Moi, écoutez, je vais résumer la réponse. D'abord, je vais vous donner quand même l'avis des savants. Qu'est-ce qu'ils disent sur la question globalement, la majorité. La majorité disent que les instruments, l'utilisation de sa voix, que la voix, c'est-à-dire sans instrument de musique, c'est halal à 100%. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est halal.
Oui.
La voix associée, accompagnée par des instruments à percussion, c'est une majorité de savants l'autorise et une minorité l'interdit.
Okay.
Maintenant, accompagner la voix avec des instruments à cordes ou à vent, c'est-à-dire tels que le violon, etc., et tout ce qui est dans un orchestre, une minorité l'autorise et une majorité l'interdit. Alors, ça, c'est ce qui est dans les kutub al-fiqh. Mais il y a des avis contemporains et qui deviennent majoritaires, qui considèrent que la musique, c'est comme n'importe quelle chose halal à consommer avec modération.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas abuser, il ne faut pas que ça soit toute la journée avec les écouteurs dans les oreilles, toute la journée.
Non, pas du tout, voilà. Mais quand je cuisine ou quand...
Je ne voulais pas parler de vous en particulier, je vous parlais en général. Oui, maintenant, non, pendant le ramadan, essayez de faire un peu plus d'efforts qu'en dehors du ramadan, à plus plutôt écouter quelque chose qui est en rapport avec quelque chose qui va augmenter votre foi, parce qu'on est quand même dans un stage de spiritualité, une période de formation spirituelle, où est-ce qu'il faut mettre un peu plus d'intensité à tout ce qui relève de la religion que de ce qui relève de la distraction. D'accord.
Voilà, c'est cette question-là. Et puis l'autre, la rapide...
Mais ça n'est pas interdit, je répète, ça n'est pas interdit.
Non, Alima, parce qu'il y a beaucoup de gens derrière, et votre question qui était longue, donc on va prendre d'autres auditeurs, mais vous pouvez appeler l'imam hors antenne au numéro que l'imam vous donne.
06 29 25 35 00. Voilà, 06 29 25 35 00. Je pourrais le redonner, Charlotte, tout à l'heure, si vous le souhaitez.
Bien. Merci, Alima. Bon ramadan. C'est Sonia qui est avec nous. Sonia, bienvenue.
Oui, bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum, l'Hajj Abdelali.
Wa alaikum salam.
Alors, et toute l'équipe, bien sûr. Et moi, je voulais savoir, en cas de saignement du nez, est-ce qu'il faut justement rompre le jeûne ou pour le rattraper par la suite?
Non. Le saignement du nez n'annule pas le jeûne. Même le saignement de n'importe quelle partie de votre corps n'annule pas le jeûne.
D'accord.
Votre sang, il est dans votre corps, donc je vois pas s'il sort de votre corps. Le prophète, même dans un hadith, clairement, il dit ce qui annule, c'est ce qui rentre dans le corps et non pas ce qui sort. Par exemple, le vomissement, le saignement, tout ça, ça n'annule pas le jeûne. Surtout si, bien sûr, si le vomissement est fait involontairement. Il y a un avis qui est très très fort qui dit que le vomissement volontaire annule le jeûne. Mais c'est la volontaire où vous mettez par exemple votre doigt au fond de la gorge pour vous faire vomir. Là, ça annule le jeûne. Mais sinon, si vous vomissez, involontairement, ou que vous saignez, ça n'annule pas le jeûne, que ce soit du nez ou ailleurs.
D'accord, non, parce que quand on est indisposé, c'est autre chose, bien sûr.
Si on est indisposé, le jeûne, il est annulé.
Exactement.
Parce qu'on ne doit pas jeûner, prier en état d'indisposition majeure. D'accord. C'est une indisposition majeure.
D'accord, barakallahu fix.
Saha torkoum. Merci Sonia.
Au revoir.
Alors, on a Salima qui est avec nous au 01 53 48 3000. Salima, vous êtes la bienvenue.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam, marhaban ya Salima.
Cheikhna, Andy, deux questions.
Non, alors c'est une question, Salima, l'imam. On vous écoute.
D'accord. Allez-y. Alors, c'est pour une faveur, la Khalik, pour faire un doua, un bon doua pour mon
père. Mais c'est pas une question, ça. Alors, on va pas la compter comme question, celle-là. Il n'y a pas de problème, on va faire doua pour votre frère. Il est malade ou décédé?
Mon père est décédé.
Votre père.
Il n'a pas pu aller à l'enterrement, ni voir sa tombe, ni rien du tout. Et j'arrive pas à faire encore le deuil. Mmh. Et voilà.
Alors, madame, votre deuil, vous n'avez pas besoin d'être devant sa tombe pour faire le deuil. Puisque même vos deux as, si vous les faites chez vous, ils vont autant être exaucés que si vous le faites devant sa tombe. Je ne comprends pas cette idée que les gens pensent que mon invocation ne peut être exaucée que si je suis devant la tombe. Min qalkum hadha al-kalam hadha? Qui vous a raconté ça? La dua, elle se fait de préférence chez soi, dans une prière, dans une prosternation de la prière. Et là, vous implorez Allah Azzawajal de le couvrir de sa miséricorde, de lui pardonner ses fautes, de lui permettre d'accéder au paradis, d'obtenir l'intercession du prophète Mohammed A.S. Donc, il y a tout un panel de dua que l'on peut faire pour un défunt. Et donc, vous le faites chez vous, dans votre prosternation, et ça arrivera peut-être même mieux que si vous êtes au cimetière devant sa tombe. D'accord?
Ok.
Inch'Allah, Rabbi Rahmoui Ossali, Inch'Allah, Rabbi Rahmoui Ossali. Voilà.
Merci.
Allez, on va prendre
Salima.
Quelqu'un d'autre.
Ravidakillah, Yorti.
Rabbi Azam Ajrakum, Sabarkum fi Musibatkum, Ya Rabbi Alamin.
Alors, on accueille Abderrazak, Imam Abdelali, à l'Aïl et Rose. Bienvenue, Abderrazak.
Bonsoir, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
J'ai une double question en ce qui concerne l'âge pour le ramadan. Ce qu'on aimerait savoir, c'est à partir de quel âge est-ce que le jeûne est obligatoire? Et la deuxième question, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut le faire, même s'il n'est pas obligatoire? Alors, si je pose la question, c'est parce que j'ai des enfants. C'est pour ça.
Oui, bien Merci. Sûr. Alors, le jeûne, en principe, est obligatoire à partir du moment où on atteint la puberté. Et la puberté, bon, on sait ce que c'est dans le dictionnaire. Ouais. Quand on est capable de procréer, on est pubère. Chez les filles, c'est les règles. Et chez les garçons, c'est l'éjaculation. Donc, à partir de ce moment-là, on est censé faire le jeûne. Maintenant, il y a un critère qui doit être ajouté à cela. C'est la capacité physique. Puisqu'il y a des personnes, des enfants par exemple, qui atteignent leur puberté et qui sont encore très chétifs, très fragiles physiquement. Et ceux-là, bien sûr, on ne peut pas leur imposer de jeûner une journée très longue qui pourrait risquer leur vie ou leur santé. Donc il faut bien entendu surveiller ces enfants quand on leur demande de jeûner et s'assurer qu'ils sont capables de jeûner. Sinon, ils ne jeûnent pas. Ils sont comme les personnes âgées, quoi.
Et à l'inverse, est-ce qu'il existe une contre-indication si l'enfant veut, de son propre chef, jeûner avant d'être pubère?
Oui, bien sûr, on recommande, nous, les parents doivent, les imams en tout cas recommandent les parents à encourager, éduquer, entraîner les enfants à jeûner et donc à leur demander de faire le jeûne quelques jours pendant le mois du ramadan ou quand ils sont encore petits, de leur demander de jeûner deux fois dans la journée.
Très
c'est la fatwa al-Wassiniya, je l'appelle celle-là.
De ouais, mon vous l'avez souvent, ouais.
Hein, comment? Donc c'est par exemple de dire allez tu vas manger aujourd'hui qu'une fois ou deux fois au lieu de trois ou quatre fois, d'accord? Ils vont diminuer petit à petit pendant le ramadan et ensuite surtout ne les écartez pas au moment du ftour. Essayez de leur dire de manger avec vous pendant le ftour, sauf si le lendemain ils ont l'école, il faut qu'ils dorment tôt parce que là actuellement le Maghreb il est autour de 9h donc ça va être peut-être si les enfants doivent dormir à 8h. Eh ben, c'est sûr qu'ils vont aller dormir à 8 heures et puis nous, ils ne seront pas concernés par le iftar. Mais si vous pouvez leur permettre d'assister avec vous pour qu'ils ressentent avec vous le moment convivial de l'iftar et du jeûne du ramadan, etc., vous allez voir qu'ils vont beaucoup, beaucoup aimer vouloir jeûner et ils vont jeûner. Inch'Allah. La difficulté, mon frère, c'est pas d'enseigner à ses enfants à jeûner, c'est de les enseigner à faire la prière. Ça, moi, je constate beaucoup, beaucoup de négligence. Les parents même considèrent que leurs enfants, ils sont musulmans parce qu'ils jeûnent. Alors qu'à un moment, on dit qu'ils sont musulmans parce qu'ils prient. D'accord? Donc, essayez de travailler l'éducation de vos enfants à accomplir la prière 5 fois par jour. Voilà. Inch'Allah, c'est ça le plus important.
Merci.
Merci.
Abderrazak. Alors, on a Abdelkrim avec nous. Bienvenue, Abdelkrim.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي عبد الكريم.
حبيت أسقيك أنا ماشي سؤال ماشي على رمضان وعلى حبيت أسقيك أنا عندي 41 ما مير دي سي دي الله يرحمها. و il y avait un peu d'or Alors ma sœur, il y a une sœur qui a gardé tout ça. Et voilà, وحده من اختي سالتها عند ذهب قالت لي ما مير على لدي كونكوان الذهب يولي لاختي الهادي اي هذا العام هذا العام على دوني ادوني اوني يا 5 سور على دوني شاتان ان تروك ا سوفينير دو ما مير
De l'or. Alors, madame, je ne vois pas pourquoi votre sœur aurait le monopole sur qui doit prendre quoi ou qui doit garder voilà. quoi. En principe, D'accord. ça fait partie de l'héritage que votre mère a légué à ses enfants. Donc, normalement, il doit intégrer l'héritage. Donc, d'abord, définir qu'est-ce que l'héritage de votre mère, qu'est-ce que votre mère a légué. Ensuite, l'estimer, donc faire une estimation de la valeur de ce que vaut l'héritage. Ensuite, définir qui a droit à une part et combien. Ensuite, on procède au partage. Si, lors du partage, quelqu'un souhaite avoir un bijou au lieu de sa valeur en argent, c'est possible. Ouais. À part, il n'y a pas de problème. Mais il n'aura des bijoux que seulement sa part qui a été définie. Donc, si un bijou, par exemple, vaut 5000 euros et que lui, il a le droit qu'à 4000 euros d'héritage, je dis un exemple comme ça, hein, eh bien, il peut prendre le bijou de 5000 euros, mais il devra verser de sa poche 1000 euros pour compenser le surplus. Et inversement, s'il prend un bijou qui a une valeur inférieure à son droit, à sa part, eh bien, il prend le bijou et en plus, on lui ajoute autre chose. Bref, de manière à ce que chacun n'aura... Alors, je répète que le testament fait par votre mère à votre sœur n'est pas valable. Il n'a aucun.
Oui, parce que c'est par parole. Il n'y a pas de papier.
Oui, même s'il y avait des papiers. Même s'il y avait un papier, le prophète dit la wasiyat al warith. Les héritiers n'ont pas le droit à un testament. Il n'y a pas de testament possible pour un héritier. Ceux qui ont un droit qui allait héritage. Hein, mais par contre, ceux qui ne sont pas héritiers peuvent faire l'objet d'un testament jusqu'à hauteur d'un tiers de l'héritage. Pas un plafond maximum d'un tiers. Pour les non héritiers. Mais pour les héritiers, c'est zéro. C'est ils prennent leur part, ce qui est dit dans le Coran, et c'est tout.
D'accord, voilà. Il n'y a pas de testament pour les héritiers. Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc d'accord. Même si c'était écrit, ça vaut rien.
Non, parce qu'on a deux sœurs, ils m'ont confirmé qu'en quoi maman l'a, avant de décider, elle a dit l'or revient à cette sœur.
Non, ça c'est n'importe quoi. Même si elle l'a dit, ça vaut rien.
D'accord, ok. Voilà, elle est obligée de nous donner notre...
Non, vous devez, mon frère, ce que je t'invite à faire, c'est de m'appeler hors antenne et je vais vous d'accord. expliquer le processus. Parce que là, on n'a plus le temps, on est obligé d'accord. de faire la une courte pause.
06
Voilà, 06 29 25 35 00.
35 00.
Donc, bien sûr, vous m'appelez demain matin, par exemple, vers 10h, 11h.
D'accord. Merci Abdelkrim. Notez que tous les soirs, hein, vous avez la possibilité de demander à l'imam qui vous fasse un doha. Ce sera tout à l'heure à partir de 20h20. Donc on vous donnera le top départ. Ce soir, c'est à 20h51, Imam Abdelali, que vous ferez l'ADN en direct sur Nord FM.
Ramadan & Co revient dans un instant. Nord FM. 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, tous les soirs, en direct, une lecture du Coran, Imam Abdelali, avec un chir différent chaque soir. Ce soir, nous allons à Strasbourg.
Tout à fait, Strasbourg. L'Alsace, département de l'Alsace. Et donc, c'est avec nous le chir Farid Darouf, président, ou non, je crois, c'est, imam de la mosquée du quartier de Nohof. À Strasbourg. Salam alaykoum, Cheikh Nalfadil.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Marhaban bik. Comment allez-vous, Cheikh Na?
Très bien, et vous allez bien?
Allah yahafdak. Comment ça se passe avec le Ramadan? Certainement beaucoup d'activités, une intensité dans la da'wa et dans l'enseignement.
Je pense que vous avez l'expérience là-dessus. Donc le mois de Ramadan, effectivement, c'est un mois qui est quand même exceptionnel. Hein.
Masha'Allah, oui.
Mais avec, bien sûr, cette année qui est aussi exceptionnelle, on fait avec.
Masha'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Cheikh Farid? Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous
Il a quitté quand même l'Hérault pour aller.
Ouais, il était à Montpellier, hein. Effectivement. Auparavant, il a commencé à Montpellier. Ou peut-être, je ne sais pas. Je vais laisser lui-même en parler. Votre expérience d'imam que vous avez pu avoir dans le passé, Cheikh Na.
Ben, en primamment, donc j'ai débuté l'imamat depuis fin 86, donc il y a quand même une carrière de presque...
Ah oui, 86
oui, effectivement.
Allahumma barak. Donc là, on a dépassé les 40 ans, là.
Voilà,
pas donc, loin, 35 ans.
Voilà, 35 ans.
35 ans d'imama, mashallah. Allahumma barak.
Donc, avec des moments paisibles, des moments magnifiques et des moments aussi durs. Voilà, le contexte souvent n'est pas aussi facile. Mais j'espère très bien que dans l'avenir, l'islam sera vraiment bien organisé, bien géré, bien représenté.
Ça, Allahumma barak.
Voilà. C'est un autre débat.
Vous avez été qu'à Montpellier et Strasbourg, ou vous avez aussi dans d'autres villes exercé l'imama?
Donc Mulhouse.
Ah, Mulhouse aussi, oui.
Ouais, Mulhouse, Strasbourg, et puis donc Montpellier.
Allahumma barak. Allah jazakum khairan. Allah khalik lina, inshallah, dukhul l'islam al-muslimin. Qu'avez-vous choisi de nous réciter comme verset du Coran, et puis bien sûr, nous expliquer un petit peu après?
Donc j'ai choisi quelques versets du chapitre La Vache, Al-Baqara, qui va traiter quand même un sujet que je vois très important. Voilà, c'est...
La khilafa, responsabilité. La fameuse khilafa.
Voilà, c'est cette responsabilité, si je peux dire, que notre Seigneur, notre Créateur, a voulu tout simplement léguer à cet être humain.
Voilà, cette fameuse amana aussi, qu'on appelle...
Oui, ce dépôt qui est quand même magnifique, hein, il est très très beau d'ailleurs, mais souvent donc, l'être humain trahit cette mission. Et il n'est pas à la hauteur aussi. Donc,
Inch'Allah. On écoute un petit peu pour imprégner les maisons de la lumière divine de cette sourate magnifique qui s'appelle, à travers cette sourate, donc sourate Al-Baqara, qui comme le dit le prophète, elle chasse les démons des demeures. Et des maisons. نستمع إليك أولا القراءة ثم إن شاء الله ندخل في التفسير والترجمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم
ما شاء الله ما شاء الله شيخ لقد اقشعرت جلودنا بهذا الصوت الجميل. Nous avons la chair de poule par cette magnifique récitation à laquelle tu nous as vraiment fait beaucoup beaucoup plaisir et tu nous as apporté beaucoup de on va dire d'émotion et de spiritualité. Akhil Karim, dans ces versets que tu viens de réciter de Sourate Al-Baqara, il y a deux histoires. Il y a d'abord l'histoire d'un dialogue entre Dieu et les anges, et ensuite un dialogue entre Dieu et Adam, Adam avec sa femme. Plutôt c'est Adam, hein, parce qu'il.
Tout à fait.
Alors, allez-y, je vous laisse si vous le permettez, nous parler de ces deux histoires de manière assez succincte pour nous en finalement nous apporter les conclusions et la moralité, les leçons.
Dans combien de temps à peu près ?
Oh, 10 minutes maximum.
D'accord. Oui, d'accord, très bien. Donc, le verset, il commence par ce dialogue, comme vous dites, c'est un dialogue entre le Créateur et puis avec une création pure, qui sont les anges. Le texte, il dit. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa, bien un vicaire. Dans l'étonnement, les anges dirent, vas-tu et désigner un qui mettra le désordre, répondra le son, alors que nous sommes là à te glorifier. À tout son sanctifié, elle dit, Subhana, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présente aux anges pour le défi. Et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridique. Elles dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi, l'omniscient, le sage. Elle dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Et nous constatons la succession ici dans le dialogue pour tout simplement montrer effectivement que Adam devance dans l'échelle, si je peux dire un peu, de la création, donc les anges. Et il dit, oh Adam, informe-les de ces noms, Puis quand celui-ci l'est eu informé de ses noms, Allah dit, nous vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Et lorsque il y a, si je peux dire, ils étaient convaincus effectivement que c'est le Créateur, le Seigneur, c'est tout. Et il a certainement un but derrière cette volonté de créer Adam.
Pour comprendre votre récit, donc il y a le récit du Coran bien sûr, il y a une sorte de remontrance, c'est-à-dire une forme de reproche que vont faire les anges à Dieu en disant « Mais pourquoi vas-tu, encore une fois, créer une créature qui va semer le désordre et faire couler le sang sur terre ?» C'est-à-dire que là, il y a une défiance, alors que les anges qui sont censés ne jamais désobéir à Dieu, encore moins manquer de respect à Dieu, se pose une question. Bon, certainement, il n'y a pas de défiance, il n'y a pas de manque de respect, certes, puisque les anges, eux, sont infaillibles et ne commettent aucune faute vis-à-vis de Dieu, mais il n'empêche que là, il y a une forme de remontrance. كأنهم يعاتبونه كيف تخلق خلقا يفسد في الأرض ويسفك الدماء.
Exactement.
Ouais. Et là, bien sûr, Dieu il est remis à sa place. Vous savez rien, vous comprenez rien. C'est moi qui sais quoi finalement.
Ce qui est beau quand même dans ce texte, ce dialogue, donc c'est déjà la place du dialogue dans le texte coranique. Et ça c'est fondamental. Les anges se permettent de dialoguer avec le Créateur Dieu. Et là, dans une ouverture, une superbe ouverture, nous constatons Allah qui va tout simplement essayer de convaincre que je sais ce que vous ne savez pas. Et d'ailleurs, cette question, comment se fait-il que les anges vont déjà donc se poser cette question? Parce que c'est très important. Le texte qui dit les anges, c'est-à-dire Alou fiha mayyuf sidou fiha. Mais aussi de faire. Comment les anges savaient que l'homme est corrompu, l'homme
était susceptible de faire, de répandre le désordre et de faire couler le sang. Donc exactement. D'assassiner, de tuer.
Comment ils pouvaient le deviner?
Voilà. Effectivement, c'est une question très pertinente.
Mais oui, comment ils le savent? Tout ça, c'est important. Il y en a certains qui disaient qu'effectivement, il y avait un être humain, mais pas responsable. Avant l'homme responsable, avant Adam, qui ressemblait effectivement à Adam, mais n'était pas responsable. Là, d'ailleurs, pour essayer un peu de justifier, si je peux dire un peu, donc les dates et le temps, parce que si le premier homme découvert a des millions d'années, alors que si on revient au début de la révélation. On n'est pas trop loin de 70 000 ans.
Justement, 70 000 ans. Est-ce que Adam fait partie de la race qui a été définie comme, par les anthropologues comme étant l'Homo sapiens sapiens, ou est-ce que même Cro-Magnon, Néandertal et Homo philis, Homo erectus, etc., qui sont des créatures qui sont moins bien évoluées, moins parfaites que Adam, est-ce qu'ils sont les ancêtres d'Adam ou est-ce qu'ils sont les enfants de Adam? Ou est-ce qu'on dit qu'Adam, c'est lui l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, qu'on appelle l'homme moderne, qui a à peu près 10, 15 ou 20 000 ans avant Jésus-Christ, juste après la dernière ère glaciaire, et que peut-être que les anges, eux, avaient constaté les autres qui n'étaient pas des homo sapiens qui ont vécu avant l'homo sapiens, qui avaient fait semer le désordre et fait couler le sang, eh bien, ils ont confondu qu'il s'agissait d'une même créature, et ils ont dit, pourquoi tu recommences ?
C'est une possibilité, effectivement. Et moi, je suis pour cette version.
C'est aussi la mienne, cher. C'est vrai que les savants qui ont fait l'exégèse que vous évoquez tout à l'heure n'avaient pas les éléments d'aujourd'hui qui ont été des découvertes anthropologiques d'un certain nombre de créatures que l'on a retrouvées dans la Terre et qui ont un crâne moitié singe, moitié humain, mais qui en tout cas certainement pas parfait, puisque dans le Coran, Dieu dit lui-même, Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Dieu a créé l'homme de la meilleure des façons, c'est qu'il y avait forcément des créatures moins bien et moins parfaites auparavant. Voilà.
Donc, effectivement, donc cette distinction entre Adam et puis un physique qui ressemble à Adam,
oui,
mais tout simplement n'était pas responsable, je pense, va débuter à partir de ce nafr. C'est ça qui est ce souffle du Seigneur qui va souffler la sagesse, qui va souffler le kalimat, les mots, « wa'allama Adam ».
Justement, c'est ça, c'est que les savants anthropologues disent que les créatures qui vivaient avant l'Homo sapiens n'avaient pas le langage, n'avaient pas les mots, ne pouvaient pas parler, alors qu'il n'y avait que des grognements, alors que lui, l'Homo sapiens, c'est-à-dire Adam et ses fils, pouvaient parler, puisque Dieu leur a donné la capacité, la faculté de parler, et il leur a même enseigné les noms pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer.
Très bien.
D'accord. Conclusion, Arfarid, parce que là, la réalisation me bouscule. On me dit, il ne reste pas beaucoup de temps. Quelle est la conclusion de cette histoire, Cheikhna? Bon, la deuxième, on va la laisser pour une prochaine fois, Inch'Allah.
Avec plaisir. La conclusion de cette histoire, que Dieu, quand il a décidé de créer l'homme, et puis il a décidé que cet homme quittera le paradis pour revenir sur Terre, et uniquement pour bâtir le paradis sur terre et vivre le bonheur et la béatitude sur terre.
Donc le fameux khilafa.
Voilà, exactement. Khilafa, c'est l'imara, c'est la construction, bâtir le bonheur et le bien sur terre. Donc c'est vraiment c'est le but du créateur.
Donc c'est un message à l'humanité de s'assurer d'être nous les héritiers de cette mission. Qui consiste à faire ce que Dieu a demandé à Adam, d'être un calife, le garant du droit, de l'ordre, et non pas de celui du chaos et de la tuerie, de faire couler le sang. Au contraire, il a cette mission de protéger, de faire régner l'ordre, en fin de compte.
Et puis, tout simplement, dire que Dieu a raison quand tout simplement a décidé de nous créer. Voilà ce qu'il faut dire, il faut faire, parce que si les anges ont déjà témoigné, ils ont donné leur shahada, que nous, on répond le sang, on est corrompu, Dieu leur a dit non. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc, essayons tous ensemble d'être à la hauteur de cette mission.
Mashallah alik. Shukran jaziran, Ustadna al-Fadil, ala hadihi al-maw'idha al-mubaraka al-karima al-fadila. Shakar Allahu lak, wa ja'alaka dhukhran lil-islam wal-muslimin fi kulli al-biqa'. وإن شاء الله إلى اللقاء في فرصة أخرى لنستمع إلى فوائدك المباركة. Une prochaine occasion, Inch'Allah, afin d'écouter une énième fois notre professeur Cheikh Farid Darouf, imam à la mosquée de Strasbourg. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah, Cheikh.
Allez, salam alaykoum et merci pour l'invitation.
Je t'en prie, mon frère, à bientôt.
Cheikh Darouf. Alors, nous avons Kamel Chekat qui est avec nous, professeur Chekat, bienvenue.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح.
أهلا وسهلا أستاذ كمال. أهلا.
أوفي علي.
C'est Beur FM, l'émission, c'est comme un collier de perles. C'est des perles qui se succèdent les unes derrière les autres. Wahda mour wahda.
J'espère que nous serons à la hauteur de.
Mais toi, t'es le gros bijou au milieu, toi. T'es celui qui est en bas là. T'es le gros.
Le yukunkun.
Le yukunkun
oui,
là.
Pour ceux qui ont la référence.
Mashallah. Ouais, c'est vrai, c'est un vieux film ça.
Ouais, c'est pour ça, le yukunkun.
C'est l'américaine, comment ça s'appelle? L'américaine. Ça s'appelle comment la belle américaine?
En tout cas, c'était un beau diamant, le yukunkun.
C'était un très très beau diamant.
Et il était caché dans le klaxon,
dans
voilà,
le
c'est
klaxon,
ça.
Oui.
De la Cadillac.
Voilà. De la Cadillac, oui.
Avant de commencer, je voudrais juste faire une petite remarque, Chirat Lali.
Cette
idée d'Homo sapiens avant Adam, elle ne tient pas la route, hein. Attention. Parce que si vous étudiez le si vous
ça me rappelle une émission qu'on a déjà fait ensemble ça d'ailleurs
je sais pas.
Vous vous souvenez Kamel
l'australopithèque le zinjentrop l'australopithèque Harold Cook
le Cro-Magnon en français
l'homme de Piltdown l'homme de Nebraska c'était tous des faux. que du faux de la part des évolutionnistes. C'est de vrais faussaires. Ils ont été placés dans des musées pendant 30 à 40 ans. Ensuite, ils ont fini dans des poubelles. Attention. La théorie de l'évolution, pourquoi ne pas pencher pour ce qui est dit par la majorité des exégètes et qui veut que le peuple qui était désigné, c'était celui des démons, celui d'Iblis.
Mais est-ce qu'ils ont du sang, les démons?
Oui, mais
est-ce qu'ils peuvent faire couler le sang entre
non,
eux?
Non, mais le fait...
Voyez, ce Sfikoudima, il y a bien du sang.
Pourrait être une allégorie concernant le crime qui devient institution, tout simplement.
Non, alors, si j'ai bien compris, Stade Kamel, ce que vous pensez, vous, c'est qu'avant Adam, il n'y a jamais eu d'humanoïdes là, qui ressemblaient à des australopithèques. C'est juste pour que ça soit clair, pour les auditeurs comprennent bien. L'homophilis, l'homo erectus et toute cette lignée de créatures qui ont vécu. Moi, je ne les appelle pas des humains. Hein. Moi, la différence, c'est que je dis pas que c'est une évolution. Je dis simplement que ce sont des créatures qui auraient pu ressembler un peu à l'homme et commettre les meurtres, les désordres, la tuerie. Et puis qu'au moment où Dieu a créé Adam, comme il ressemblait un petit peu à ces créatures, les anges ont dit comment ça, encore une fois, tu refais la même chose.
Il y a un point très très important. Si vous étudiez l'histoire naturelle de cette terre, autant chez les humains que chez les animaux. Quand vous savez que le léopard existe sur Terre plus longtemps que l'homme, vous imaginez un homme des cavernes ayant pu vivre avec le léopard tel qu'on le connaît actuellement ? Impossible. L'homme, vous le mettez dans la jungle, il serait au plus bas de la chaîne alimentaire.
Oui, mais on sait bien que l'homme n'a pas été au même endroit que forcément ces créatures. La terre est immense. Ils auraient très bien pu vivre dans un endroit où il n'y avait pas ce léopard ou d'autres dents de sabre, par exemple, les fameux dents de sabre.
Oui, pour ne pas empiéter sur ma rubrique. Ça mériterait une émission.
Moi, je vous propose une émission complète spéciale. Et même des émissions complètes.
Ouais, pourquoi pas. Ça serait passionnant.
Ça serait super intéressant.
Ça serait passionnant. Alors, et on convoque effectivement les spécialistes dans différentes spécialités, Kamel.
Même des évolutionnistes, des gens qui sont pour ça.
Bah oui, mais bien sûr.
On en a un, vous savez. Il y en a beaucoup chez les musulmans, Cheikh Nal Fadel, comme le professeur Nidal Gessoum, que vous connaissez, qui est le fils de Cheikh Abdelaziz. Qui est un évolutionniste qui pense qu'il y a une évolution qui est d'ordre divine et pas naturelle. Il dit qu'elle existe, mais elle est divine. C'est-à-dire que c'est Dieu qui choisit de faire évoluer les choses. Et ça n'est pas blasphématoire que de croire à ça.
Non, l'argumentation
selon
est
ce qu'il dit.
Hein? Selon ce qu'il dit. Oui, je le sais, je connais son argumentation, je le connais personnellement, mais bon. Enfin, c'est
un. Il a même écrit un livre là-dessus, un gros livre. Hein.
Je me rappelle, Imam Abdelali.
Ouais. Bon. Ça avait fait du bruit à la radio.
Ça avait fait du bruit. Alors là.
Beaucoup de bruit.
Oh mon Dieu, mon Dieu.
Oh Dieu, tremblement de terre.
On passe à autre chose.
Voilà, d'accord. On va passer à autre chose. D'accord. Allez, Kamel, bismillah,
t'fadal. Aujourd'hui, c'est un autre événement, un autre fait de l'histoire, une anecdote. Il s'agit de fait ou d'un récit qui est rapporté par Abu Daoud Payal ici concernant Ali ibn Abi Talib, le quatrième des califes éclairés, qui a été envoyé par le messager de Dieu alayhi salatu wassalam au Yémen. Il était en mission. Alors cet envoi, il faut essayer de mettre aussi le récit dans son contexte historique. Ali ibn Abi Talib a été envoyé au Yémen quelques mois avant le pèlerinage d'adieu du messager de Dieu, c'est-à-dire à la 10e année. Et donc, il arrive au Yémen, il tombe sur un problème qui venait de se produire. Un groupe de gens avait creusé un trou, en fait, on appelle ça en langue arabe « zoubia », ça veut dire un piège pour fauves. On creuse un trou et on le cache et on attend que la bête arrive et elle tombe dedans. Donc ils ont pu, grâce à ce piège, ils ont pu capturer un lion. Et bon, après la capture du lion, qui devait se trouver quelques 5 ou 6 mètres en bas, dans une sorte de puits, les gens se sont bousculés autour du trou pour voir le lion, etc. Et voilà qu'un homme glisse, et au moment de tomber, il entraîne dans sa chute un deuxième, qui lui-même va entraîner dans sa chute un troisième, qui à son tour va s'agripper à un quatrième homme et le fait tomber avec lui dans le trou. Une fois dans le trou, bon, le fauve, le lion les a lacérés, il les a massacrés, et les quatre personnes sont mortes quelques temps plus tard suite à leurs blessures, qui étaient plus ou moins graves. En tout cas, sur le moment, enfin sur le coup, il y a quelqu'un qui est venu avec une lance et qui a pu tuer le lion avant qu'il les achève. Par la suite, donc après qu'il y ait eu toutes ces morts, enfin quatre personnes mortes, le clan de chacun des morts a pris les armes pour aller revendiquer le prix du sang. Alors ceux du quatrième voulaient récupérer chez le troisième, ceux du troisième chez le second, le deuxième, ceux du deuxième chez le premier, et puis c'était la débandade. Il fallait ça allait causer une guerre, et l'imam Ali leur a dit: écoutez, vous n'allez quand même pas vous entretuer alors que le prophète alayhi salam est encore en vie parmi vous et vous êtes musulmans. Et dans une autre version, il aurait dit: vous n'allez tout de même pas tuer 200 personnes uniquement pour 4 personnes qui sont mortes. Et il leur proposa donc de prononcer un jugement. Il leur dit: si ce jugement ne vous convient pas, nous irons tous au messager de Dieu, alayhi salam, à Médine, et vous allez exposer votre litige. Il a tout d'abord incriminé ceux qui ont creusé le trou, ceux qui ont confectionné le piège, et qui n'ont pas pris toutes les dispositions pour éviter qu'il n'y ait un accident, ce qui s'est produit par la suite. Donc c'était à eux de réunir le prix du sang, diya. Et nous savons en islam que quand il y a un homicide involontaire, un meurtre par erreur, le prix du sang est de l'ordre de 1000 dinars en or. Sachant que nous parlons de dinars, de l'or 24 carats, et sachant que chaque dinar pèse à peu près 4,3 grammes. Donc ça vous donne une idée de la somme qu'il fallait réunir déjà pour 4 personnes. Donc quand il y a un homicide involontaire, le prix du sang est de 1000 dinars en or de l'époque. Mais l'imam Ali, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé à ceux qui devaient réunir le prix du sang de réunir le quart d'une diya, le quart d'un prix du sang, le tiers d'un prix du sang, la moitié d'un prix du sang, et le prix du sang en entier. Et il a donné à la famille du premier, de celui qui est tombé en premier, qui a entraîné dans sa chute les trois autres personnes qui ont suivi. Alors il a donné à sa famille ou à son clan le quart du prix du sang. Il a donné au second, celui qui a tiré la troisième personne, le tiers. Il a donné à la troisième personne, c'est-à-dire celle qui a tiré le dernier homme, la moitié du prix du sang, et au dernier, celui qui n'a entraîné personne, qui était la véritable victime dans cette affaire, il lui a accordé le prix du sang en entier. Et beaucoup de savants disent que l'imam Ali ici a agi contrairement à ce qui devrait se faire en temps normal, khalaf al-qiyas. Mais en fait, quand les gens n'ont pas accepté ce jugement, ils sont tous allés vers le messager de Dieu, arrivés à Médine, ils ont exposé le litige, et au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se prononcer, l'un d'eux lui dit, l'imam Ali ibn Abi Talib a prononcé un jugement en la matière, et quel est-il? Et il lui fit part de ce qui s'était produit. Et là, le messager de Dieu alayhi wa sallam a ri jusqu'à ce que ses molaires apparaissent, c'est-à-dire il était un peu surpris, mais il a accepté cet ijtihad, cet effort de réflexion, parce que par cet effort de réflexion, l'imam Ali a d'une part évité une effusion de sang qui allait peut-être causer une hécatombe, d'un autre côté, ce n'était pas les clans de chacune des victimes qui, mis à part le quatrième, étaient toutes alors elles étaient en même temps victimes et meurtrières, enfin auteurs d'un homicide involontaire. Donc plutôt que d'accabler leur clan, il a préféré rejeter la faute sur ceux qui n'ont pas pris toutes les dispositions. et il a agi selon le, beaucoup plus selon le bon sens que selon ce que prédisent les textes. Et bon, on ne peut pas trop s'étaler là-dessus, mais beaucoup de savants, quand ils ont étudié cette histoire, cette anecdote qui est consignée dans les annales, on remarque que finalement c'était le bon sens. Il a agi selon ce que dicte le bon raisonnement. Pourquoi ? Parce que supposons par exemple que deux fermiers, on va dire ivres, sont ivres et puis l'un d'eux brûle un champ qui est commun aux deux. Eh ben, celui qui a brûlé le champ ne devra rembourser que la moitié, vu qu'il y a une moitié qui lui appartient. Et l'imam Ali a agi dans ce sens. Au premier, à celui qui est tombé le premier, il n'a accordé que le quart du sang, parce que c'est lui qui était le plus en tort. Et puis il est allé comme ça, on va dire à crescendo, jusqu'à ce que celui qui était victime à 100% prenne la totalité du prix du sang. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais l'exemple d'aujourd'hui, je vous le donne pour que nos auditeurs comprennent que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils faisaient des efforts de réflexion, ils avaient déjà les qualités qui les prédisposaient à cela, mais aussi ils le faisaient essentiellement pour
Ils avaient surtout compris l'esprit de la révélation. Ils avaient cet héritage.
L'esprit de la révélation, oui. Vous savez, une histoire
Kamel, on ne peut pas, parce qu'on va être coupé par la pub ce soir. Oui. Mais Inch'Allah. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre demain matin.
Ouais. Demain soir, à 20h.
Demain matin, à 6h, ça va être d'accord. Un peu tôt. Ouais. À demain,
d'accord, avec plaisir, cher. Merci
demain.
Beaucoup,
Stade. Salam alaikum.
À bientôt, commissaire. Un plaisir.
Je voudrais juste rappeler à ceux qui nous écoutent que si vous souhaitez que l'imam Abdelali vous fasse un doha tout à l'heure, eh bien, vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà. Et notez qu'après le ftour, c'est l'aftour. Donc à partir de 22h, de 22h à 23h, donc Ramadan avec mon imam. Et ce soir, c'est le Kirghizistan auquel vous vous rendrez. Donc la capitale du Kirghizistan.
Ah là, je sais pas. Là, c'est trop dur pour moi. Tout ce qui finit par stan là à la fin, Kirghizistan, tout ça là, c'est l'Asie centrale. Je connais pas trop.
Bishkek. Bishkek.
C'est au moins un jour que le gars qu'on lui a sorti et il est en train de préparer un beefsteak.
C'est l'occasion, Imam Abdelali, de se cultiver.
Mashallah. Dans beefsteak.
Non.
Comment t'as dit ?
Ça, c'est parce que vous avez faim.
C'est ça, peut-être. Inconsciemment.
Bishkek.
Bishkek.
C'est un pays d'un peu plus de 6 500 000 habitants.
Eh ben.
C'est un petit pays.
Ouais.
Voilà. Et on découvrira ce pays.
Le qu'on t'a dit ?
Alors, je l'ai éternué, hein. Le Kirghizistan.
Kirghizistan.
Bon, je crois. Hein. Voilà, donc,
d'accord.
On saura tout sur ce pays tout à l'heure.
Donc, à partir de 20h, c'est sur un.
22h,
excusez-moi.
Sur la page Facebook de Beurre FM, Saphir News et mon imam. Voilà. Et dans un instant, je rappelle aussi également qu'un d'entre vous sera le gagnant, ce qu'on appelle l'auditeur VIP, la personne la plus importante de la journée, et repartira avec un coffret de parfum, Maïssa Parfum, et un parfum de linge d'une valeur de 250€. Mais tous les soirs, Imam Abdelali, vous faites un doha pour un auditeur qui a été sélectionné au standard. Et c'est Rania qui est avec nous. Bonsoir, Rania.
Bonsoir.
Salam alaikum, Urti Rania. Marhaba bik, Urti Karima. Ahlan wa sahlan.
Shukran. Est-ce que vous pouvez me faire des doigts pour mes enfants, pour Salah Dariya?
Allah yislaham, inshallah, j'alam Dariya Saliha. Je vais aussi en profiter pour faire un doha d'une sœur qui n'arrivait pas à joindre le standard, mais qui a une mère en urgence, qui est en état de coma, puisqu'elle est en réanimation parce qu'elle a attrapé le Covid, elle a 78 ans. Donc on va aussi en profiter d'assembler les deux doha pour les deux. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلحهم بهدايتك يا رب العالمين، اللهم أهدهم واهد بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم من كان ضالا منهم فرده إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعله راضيا عند والديه وعندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله راضيا مرضيا يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا ونحن وإياهم جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. ربي إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف هذه المرأة التي أصيبت بالمرض الكورونا وجميع مرضى الذين المصابين بالمرض في مستشفى العالم الإسلامي والعالم حتى الإنساني. اللهم رد لهم صحتهم وعافيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. ما شاء الله. très bien. donc la suite c'est quoi Philippe?
Ben alors c'est un disque qu'on a
Choisi. Donc une chanson.
Oui, une chanson.
Une chanson. Donc on va y écouter une belle chanson, et donc on va demander à implorer Dieu par les noms, parce que Dieu il nous dit de l'implorer par ses noms. Donc c'est une chanson qui donc reprend les noms de Dieu, Asma Allah al-Husna, les plus beaux noms de Allah Azza wa Jalla. Bismillah. C'est Mohamed Youssef. Mohamed Youssef.
Ramadan & Co,
revient dans un instant. Beurre FM, 19h-21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et on est 30 jours avec vous, un peu plus d'ailleurs, hein, Imam Abdelali, puisqu'on a commencé le dimanche de la nuit du doute. Donc oui. Ouais, on va faire 32 jours cette année.
Comment ça? Oui, 32 jours d'émission. Ah, tout bah, à fait.
32
ouais.
jours d'émission.
Ouais, mais 30 jours de jeûne, quoi. Il n'y a pas 32 jours de.
Non, ouais. On ne fera pas 30 jours de jeûne.
Puisqu'on a fait effectivement deux jours avant le début du ramadan. Ouais. Puisqu'on a commencé mardi le jeûne, mais on a commencé les émissions le dimanche.
Ça fait une semaine, tiens. Ça fait, c'est le septième jour aujourd'hui.
Exactement, ça fait sept jours pile poil de jeûne.
Jeûne, ouais, voilà.
Voilà, exactement. Alhamdulillah. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette encore une fois de continuer à vivre ce mois dans la foi, dans la piété, dans la convivialité, la générosité. Allez-y, faites le bien autour de vous, c'est ce qui vous est demandé, rien d'autre et rien d'autre.
Alors, dans un instant, un auditeur VIP, vous savez que c'est la dernière personne qui parle avec nous. Il suffit simplement de composer le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, et c'est peut-être vous qui serez intercepté au standard pour être l'auditeur VIP. Et je vous rappelle que Beurre FM vous offre un coffret de parfum, Maïssa Parfum, avec un parfum de linge et d'une valeur de 250 euros. Donc 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Alors vous connaissez la tradition, Imam Abdelali, c'est vous qui allez désigner.
Donc. Non, choisir un numéro, c'est ça?
Ouais, jusque-là, c'est bon.
Bon, c'est donc, quoi jusqu'à combien, là de 1 à combien?
Les lignes n'ont pas changé, de 0 à 6.
À 0 à 6. Alors,
non, de 1 à 6.
Hier, on a gratté un peu.
Alors 3.
3.
J'irai dans les bois. Tu connais celle-là?
Vous avez des noms de bois où vous allez?
Non,
aller
c'est 1, 2, 3, j'irai dans les bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises.
Il a fait des colonies de vacances.
Voilà, non, l'école.
À l'école, oui.
Ouais, allô, l'école de la République.
Coucou, bonjour et bienvenue.
Bonjour. Salam alaikum, bonjour.
Salam alaikum.
Alors, alaikum, ça me compte, tu t'appelles?
Myriam.
Oh, mashallah, Myriam, t'as gagné un beau. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Mariam? C'est une bouteille de parfum, c'est ça?
Oui, c'est un coffret de parfum.
Un coffret, eh ben.
Merci.
Superbe.
Alors, qui c'est qui a avec toi, Mariam?
Papa, maman et mes frères et sœurs.
Mashallah.
D'accord, et t'as combien de frères et sœurs? Parce qu'il y a du bruit, là.
On est trois.
Oui, ils s'appellent comment?
Amia, Ismaël et Lia.
D'accord. Bon, et toi, tu as quel âge, Mariam?
10 ans.
10 ans, très bien. T'as passé une bonne journée?
Oui.
Ah, qu'est-ce qu'il y a, Imam Delali?
Il veut savoir d'où elle appelle, la petite.
D'où elle appelle? Non. De quel coin? 19e arrondissement, Paris. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, très bien.
Alors, ils ne sont pas dans la même ville que nous, hein, parce que s'il y a l'appel à la prière.
Non, je ne sais pas.
Voilà.
Ce n'est pas
celui de Beurre FM.
Mais ce n'est pas encore leur l'Aden. C'est pas encore leur l'Aden.
Il y en a, on leur a enlevé les taxes. Hein.
C'est ça, c'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça. La TVA. C'est moi la TVA, ça.
Myriam, est-ce que tu sais ce que maman a préparé à manger ce soir?
Oui.
Oui, qu'est-ce qu'il y a à manger?
Shorba. Et des frites.
Des frites,
machin. Oh là 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 là. Moi, je crois que
avec du ketchup, la mayonnaise, c'est quoi qu'on met avec les frites?
Samouraï.
Oh,
bah, tu sais, l'imam, il met de la harissa avec ses frites.
Après, il tombe malade.
Le matin, il a des problèmes.
ouais, c'est ce qui m'est arrivé hier soir, ouais, malheureusement.
Donc là, aujourd'hui, sera plutôt moutarde pour vous.
Ouais, voilà, tiens, j'ai de la bonne moutarde maille là.
Alors, Myriam, est-ce qu'il y a des gens à qui tu veux envoyer un petit message?
Oui.
Oui, on t'écoute.
À toute la famille Vessri.
Toute la famille Bouhamar.
Et toute la famille Bouhamar.
Masha'Allah. Allah yahfadakoum, inshallah. Allah yaj'alakoum dhuriya saliha.
Et tous les musulmans du monde.
Allah yaj'alak dhuriya saliha wa in bitak nabatan hasana binti.
Inch'Allah.
Je te fais un gros bisou.
Merci.
Et un salam à toute la famille.
Merci, au revoir. Et vous restez avec nous en antenne pour qu'on prenne vos coordonnées, évidemment.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.